Bonsoir, les évêques de la RDC recommandent au président de la République d'assumer pleinement ses responsabilités de chef de l'État et de changer le système de gouvernance. Il lui demande également de redorer le blason de la magistrature, particulièrement celui de la Cour constitutionnelle, de façon que le peuple ait confiance en la justice. C'est parmi les recommandations issues de la 56e Assemblée plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCON sigle, tenue à Kinshasa la semaine dernière. Quelle lecture faire de ces recommandations? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mardi 25 juin 2019. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Abbé Donatien Cholet, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Peter Kazadi, député provincial élu de Moamba, Kinshasa. Il est cadre de l'UDPS, parti membre de la plateforme CASH. Monsieur Peter Kazadi, bonsoir. Et Christian Moleka, analyste, il est coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Monsieur Moleka, bonsoir.
Bonsoir Kelly.
Merci parce que vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Jedidia Mabela de Kisangani dans la province de la Tchopo, recommandation fondée des évêques de la CENCO qui malheureusement ne produiront aucun effet sur la conduite actuelle du pays. Car à ce jour, il est pratiquement difficile pour le président de la République pour que le président puisse exercer pleinement ses responsabilités. Le président Fatih est dans une coalition politique dont les rapports des forces penchent grandement en faveur de son allié. Son faible poids politique réel est un handicap majeur qui ne lui permettra pas de changer facilement les systèmes de gouvernance opaques de l'ancien régime. Merci de nous suivre à Bounia dans la province de l'Ituri sous la 104.9. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Libérer mon peuple, tel est l'intitulé du message de la 56e Assemblée plénière des évêques, membres de la Conférence nationale épiscopale du Congo, CENCO en sigle, publié hier lundi à Kinshasa. Dans ce message, la CENCO se dit notamment plus que préoccupée par le temps pris pour les négociations en vue de la désignation des animateurs de certaines institutions, en l'occurrence le bureau du Sénat et le gouvernement. Cette manière d'agir dans le contexte de notre pays porte des graves préjudices au bon fonctionnement de l'État, disent les évêques catholiques. D'autres détails avec Alain Hirung.
Les princes de l'Église notent que les élections du 30 décembre 2018 ont suscité un espoir de changement dans le pays. Cependant, plus les jours passent, nous constatons, disent-ils, que la situation n'évolue pas. L'élan pris pour l'avènement d'une nouvelle ère a été brisé par de sérieuses entraves de tous ordres. Cet état de choses compromet l'avenir de notre pays sur plusieurs plans. En vue du changement voulu par le peuple et de la sortie de la crise multiforme, la CENCO formule plusieurs recommandations. Au président de la République notamment d'assumer pleinement ses responsabilités de chef de l'État. Au Parlement de se mettre réellement au service du peuple qui a opté pour le changement. Au futur gouvernement de mettre au centre de son action l'amélioration des conditions de vie de la population, spécialement dans les secteurs de l'éducation, la santé et les infrastructures. Enfin, la CENCO demande au peuple congolais de s'unir, d'assumer son destin et de réaliser que le changement est un combat de tous, de ne pas laisser une minorité prendre en charge leur patrie et leur avenir.
Merci Alain Hirung pour tous ces détails. Abbé Donatien Cholet, vous êtes secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle. Libérez mon peuple, tel est l'intitulé du message de la 56e Assemblée plénière des évêques, membres de la Conférence nationale épiscopale du Congo. Pourquoi ce titre, Libérez mon peuple?
Je crois que c'est clair à partir de l'introduction où les évêques rappellent que le peuple veut le changement, que le 30 décembre 2018, le peuple s'est clairement exprimé pour une véritable rupture entre l'ancien système de gouvernance pour le gouvernant qui le mettrait au centre de leurs préoccupations. Et les évêques ont reconnu qu'il y a eu des signes positifs de la part du président de la République dans ce sens-là. Mais malheureusement, les évêques pensent, constatent que les choses n'évoluent pas, il y a des entraves.
Quelles sont ces entraves?
Eh bien, il y a tout ce qui a suivi là sur le plan sociopolitique, tout ce qu'ils ont déploré, en commençant par le fait que, par le temps qu'ont pris les négociations, et qui dans le contexte ailleurs, comme dans un pays où la démocratie est assise, les institutions sont bien assises, on comprendrait, comme en Belgique, mais ici chez nous, ça ne favorise pas le bon fonctionnement de l'État. Et les évêques ont fait allusion à la situation de la justice dans notre pays, qui est un des piliers d'un état de droit. Ils ont fait allusion à la situation économique, à l'aspect sécuritaire. Et voilà, tout cela, c'est tout ça qui empêche que le changement advienne au rythme souhaité par la population, comme on en a déjà eu les premiers signes que les évêques ont salués en toute sincérité.
Et donc, les premiers signes du président ne sont pas suffisants, selon vous?
Bon, c'est-à-dire, l'élan a été pris. Bon, il est de bonne foi. Il voit clair où doit aller le pays. Les évêques l'ont rencontré. J'étais avec eux. Donc, il n'a pas de doute qu'il voit la direction où doit conduire le pays. Mais jusque-là, il y a des pesanteurs pour lesquelles les évêques, en vertu de leur mission charge pastorale et prophétique, ont décidé d'attirer l'attention des uns des autres simplement pour le bien-être du peuple congolais.
Et quels sont ces pesanteurs, Abbé Cholet?
Bon, il y a le fait que ça pèse au niveau des négociations avec la coalition. Il faut reconnaître que le décor politique aujourd'hui n'est pas de nature à faciliter les choses, dans la mesure où il s'agit d'une coalition des opposants d'hier avec le pouvoir en place d'hier. Les accords sont permis en politique, on n'a rien à reprocher de ce côté-là. Mais maintenant, il faut que ce mariage tienne compte du changement souhaité pour lequel le peuple s'est exprimé.
Alors, à 6 mois seulement, depuis que le chef de l'État est en fonction, vous vouliez qu'il y ait quel genre de changement? Que tout change au même moment? Est-ce qu'il ne faudrait pas y aller petit à petit?
Bon, mais les évêques, voyez, dès le début, ils ont salué l'élan, ils ont salué les bonnes décisions. Donc, ça signifie qu'il ne s'agit pas d'un bilan pour lequel on devra accoter quelqu'un ou le condamner, surtout pas condamner quelqu'un, mais on aurait souhaité que cet élan continue sans entrave. Et alors ils sont en train, en tant que pasteur, en tant que prophète, attirer l'attention les uns les autres qui ont les clés à main, qu'on laisse faire cet élan pris par le chef de l'État.
Alors, vous avez évoqué plusieurs situations préoccupantes, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, sur le plan sociopolitique, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan de la justice et droits humains, et vous demandez au chef de l'État d'assumer pleinement ses responsabilités de chef de l'État. Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'assume pas pleinement ses responsabilités?
Non, il ne s'agit pas d'un reproche, c'est tout pas ça. C'est-à-dire, les évêques constatent que la situation n'est pas facile pour lui. Il a affaire à une coalition. Il est dans une coalition où la majorité est l'ancien pouvoir. Mais il reste, les évêques lui rappellent qu'il reste, lui, le garant de la nation. Dans le respect, bien sûr, de la Constitution. C'est-à-dire, quand bien même la majorité a ses doigts dans la coalition, conformément à la Constitution, mais il y a des choses que lui doit décourager il doit encourager. En d'autres termes, il ne faudra pas que la coalition prenne une direction contraire aux vœux exprimés par la population. Voilà.
Et c'est pourquoi
est le garant, il est le commandant suprême de l'armée, donc il a quand même... c'est une institution qui pèse, alors il faudra que ça pèse de tout son poids pour mener la barque vers le changement.
Et c'est pourquoi vous lui demandez de changer le système de gouvernance en instaurant un véritable état des droits.
Bien sûr, c'est ce que les évêques ont écrit, c'est l'expression de la volonté de la population qui s'est exprimée le 30 décembre Alors, on demande au chef de l'État qui est garant de la nation de matérialiser ce vœu-là. Voilà.
Merci, Abbé Donatien Cholet. Maître Peter Kazadi, député provincial élu de Mouambari, Kinshasa. Vous êtes cadre de l'UDPS, parti membre de la plateforme CASH. Maître Peter Kazadi, comment vous analysez ces recommandations de la SENCO après plusieurs observations faites sur la situation, sur certaines situations préoccupantes du pays? L'Abbé Cholet l'a dit tout à l'heure. Comment vous réagissez? Par exemple, lorsqu'on demande au chef de l'État d'assumer pleinement ses responsabilités de chef de l'État.
Oui, merci beaucoup. Je tiens d'abord à saluer les Congolaises et les Congolais qui nous suivent à travers les pays. Je salue également M. Lavien Cholet ainsi que les compatriotes qui sont avec vous au studio, je crois. Merci. Par rapport à la question, moi je comprends parfaitement la préoccupation de l'Église catholique qui ne va pas dans le sens d'interpeller les chefs de l'État, bien sûr, il s'agit d'une interpellation, une invitation à assumer pleinement ses responsabilités. Mais dans les faits, le chef de l'État est effectivement en train d'assumer ses responsabilités. Mais je note dans les messages de la SENCO une certaine inquiétude. Il y a des questions que tous les Congolais se posent. Il y en a qui pensent que Félix Tshisekedi est un président de la République désigné par Joseph Kabila pour accomplir sa volonté. C'est ça, la pensée profonde de l'Église, qui est aussi partagée par une certaine partie de l'opinion publique. Et partant de ce concept, de cette acception des choses, l'Église a voulu inviter les chefs de l'État à agir pleinement, conformément à la Constitution. Et je trouve qu'il s'agit là d'un soutien déclaré de l'Église au chef de l'État. Ils voudront le voir pleinement exercer sa mission, c'est-à-dire agir comme chef de l'État qui ne subit pas des pressions extérieures. Ça, c'est très positif. Et de son côté, moi, je peux dire, le chef de l'État est dans cette voie-là. Mais on ne peut pas nous voiler la face pour constater qu'autour de nous, il y a certaines entraves, il y a des embûches qui sont dressées sur son chemin. Il y a une volonté réelle du changement affiché par notre peuple. Et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, incarne bel et bien cette volonté. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a des gens qui ne voudraient pas que ces changements se réalisent. D'où l'invitation à l'ensemble de la population, à l'Église catholique, à toutes les couches de la société congolaise, de soutenir les chefs de l'État pour que ces changements soient effectifs. Ça, c'est indéniable.
Et qui sont ces gens qui ne veulent pas du changement, qui ne veulent pas accompagner le chef de l'État dans les changements?
Mais c'est comme dans toutes les sociétés, il y en a toujours qui sont disposés à se soumettre à la loi et d'autres qui cherchent comment contourner la loi. Et nous avons vécu dans cette situation-là des décennies durant, mais l'ère du changement étant sonnée, il y en a qui ne comprennent pas qu'on ne peut pas, qu'il faut aller dans les changements. Et moi, j'apprécie les messages de l'Église catholique. C'est une invitation non seulement au chef de l'État d'assumer pleinement son rôle, mais également à la population, au peuple congolais de les soutenir, puisque lui est résolument engagé dans la voie du changement. Lutter contre la corruption, contre la gabegie financière, contre les injustices, la violation des droits de l'homme. Donc c'est à cela que les populations attendent voir le président à l'œuvre. Et il s'est déjà engagé à travers plusieurs actes. Donc, moi, je demanderai à l'Église catholique, au-delà des discours, de l'appel tel qu'ils sont en train de le faire, mais qu'on appuie les chefs de l'État de manière concrète en sensibilisant sa vision qui est celle du changement, en les soutenant à travers des actes. Je pense que ça serait une bonne chose.
Mais entre-temps, cette même population s'inquiète un peu du mariage FCC-CASH, quoi.
Oui, je comprends, puisqu'on a là affaire à des gens qui, à peine étaient au pouvoir, qui n'ont pas pu répondre aux aspirations de la population. Et d'autre part, il y a un camp qui était opposé au FCC avec une volonté, une forte volonté du changement. Mais il fallait maintenant choisir la voie de la sagesse. Et la voie de la sagesse a fait que nous qui avons une forte volonté de changement, nous avons accepté nos frères qui, à leur tour, nous les invitons à s'enrôler dans la logique du changement pour qu'ensemble nous puissions transformer notre pays. Il n'y a pas du tout d'inquiétude à faire, mais il faut que nous soyons tous vigilants pour que la volonté du changement prime sur toute autre considération.
Alors, la SENCO recommande également au chef de l'État de redorer le blason de la magistrature, particulièrement celui de la Cour constitutionnelle, de façon que le peuple ait confiance en la justice.
Tout à fait. Ça fait partie des combats qu'il faut mener. Nous nous sommes battus d'abord pour l'instauration d'un état de droit. Maintenant que le président Félix Tshisekedi est là, ça fait partie de ses priorités.
Est-ce que cet état de droit existe aujourd'hui?
Oui, nous sommes dans un état de droit aujourd'hui. Vous n'avez qu'à voir, les gens manifestent sans être gazés. Il n'y a plus de prisonniers politiques dans ces pays. Les gens ne sont pas arrêtés à cause de leurs opinions. Mais l'état de droit, ce n'est pas toujours dans les aspects politiques, mais aussi dans les aspects sociaux et judiciaires. Donc nous avons du travail à faire. Il faut assainir cette magistrature. Il faut que l'Église nous aide à travers les prédications dans son Église. Pas dans permettez-moi la tautologie, à travers les différentes prédications dans les différentes paroisses, que l'esprit du changement soit enseigné, que les gens comprennent que nous devons rompre avec le passé, puisque lorsque vous voyez tous ces magistrats qui rendent des injustices, ils sont quelque part membres des églises. Il faut qu'Allah, on les prenne en charge, qu'on les fasse comprendre qu'ils doivent être justes et que Dieu veut que la justice soit dans un pays pour que cette nation soit élevée. Donc ça aussi, c'est parmi les missions de l'Église d'enseigner la justice à ses fidèles et de manière à marcher correctement.
Merci, Maître Peter Kazadi. Christian Moleka, analyste, vous êtes coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Quelle lecture vous faites des recommandations de la SENCO?
Merci pour la question. Le premier sentiment que j'ai eu en lisant le texte, c'est que la préoccupation est légitime, telle qu'exprimée par les évêques. Mais c'est sur un fond d'inquiétude et d'impuissance. Inquiétude parce qu'on sent tout au long du message des mots comme entrave, blocage, et d'ailleurs l'abbé Choulet l'a répété également, blocage, entrave, otage, ceux qui ont les clés en main. On a comme le sentiment que les évêques sont députés sur le fait que l'élan tel que souhaité par le peuple ne s'exprime pas. Et impuissance parce que ce sont les élections qui auraient pu servir exactement à renouveler, à amener ce changement-là. Or malheureusement, la situation de fait telle que nous en sommes aujourd'hui, les élections nous ont donné cette coalition ou cette cohabitation qui ramène de l'ancien et du nouveau. Alors que dans le discours des évêques, ils écrivent eux-mêmes qu'on ne peut pas faire du vin nouveau avec l'ancien, avec des vieilles outres. Et donc nous avons une cohabitation entre cette volonté de rupture exprimée par le peuple en majorité, mais une majorité curieusement qui revient en l'ancienne majorité au pouvoir. Et donc ce rétro-pédalage met tout le monde en dépit et nous sommes face à une situation où il faut prendre l'option d'avancer et les évêques, comme tous les Congolais, ne trouvent pas la clé, justement, pour prôner cette rupture-là. Comment faire du rupture avec de l'ancien? Cette équation ne trouve pas de réponse. Et malgré le fait que les évêques soulèvent les questions éthiques, il faut un pouvoir éthique, il faut des hommes nouveaux, il faut des hommes intègres, personne jusqu'à maintenant ne trouve de réponse à cette question de comment faire de la rupture avec de l'ancien. Et le discours des évêques ne reprend que ces inquiétudes-là que tous les Congolais partagent.
Selon la SENCO, on a l'impression que le chef est bloqué dans son élan de vouloir changer les choses.
Mais c'est parce que institutionnellement, nous sommes dans une cohabitation. Nous sommes dans une cohabitation, nous avons une majorité parlementaire qui est opposée à une majorité présidentielle. C'est serrer l'expression des Congolais au vote. Nous n'avons pas historiquement vécu cela, sinon en 60, entre Kasavubu, Bouégué et Lumumba. Et cette première cohabitation a fini dans l'affrontement. Elle n'a fait que 3 mois, on connaît comment elle a fini. Et depuis, nous avons eu l'habitude d'avoir un pouvoir fort, un président qui a la majorité et qui se permet calmement de mettre en place un gouvernement. Nous sommes donc face à une expérience nouvelle de cohabitation qui va certainement aller en tâtonnant. Et donc on perdra un temps parce qu'il faudrait que les nouveaux acteurs s'habituent à cette nouvelle configuration politique. Ça peut justifier le temps que l'on perd aujourd'hui, qui semble inquiéter quelques-uns, mais c'est une nouvelle expérience politique qui va aller avec des tâtonnements. Deuxièmement, c'est que l'inquiétude, qui est tout autre, c'est de voir les anciennes pratiques revenir. Et donc c'est pour cela que les évêques expriment ce besoin de rupture. Mais là encore, c'est comment on fera de rupture avec l'ancien. On n'a pas de réponse et même les évêques ne donnent pas de réponse. Appeler le peuple à s'assumer, c'est bien beau, mais encore faut-il définir comment. Et là, la feuille de route demeure, de mon point de vue, impuissante.
Mmh. Alors, selon Maître Peter Kazadi, c'est aussi le rôle de l'Église de pouvoir aider le président de la République dans cet élan de changement.
Le président a besoin de soutien, bien évidemment, pour l'aider à matérialiser ce combat-là de rupture. D'autant plus que ce n'est pas facile de déboulonner un système ancien qui s'est installé longuement. Et je pense que toutes les bonnes volontés lui seront utiles. Et si l'Église se mettait à côté de sa personne pour sensibiliser les Congolais sur les enjeux, parce qu'il faut réveiller le peuple sur les questions éthiques, sur le rôle de l'éthique. On a vu qu'on a voté des élus qui ont voté pour suppléants des femmes et des enfants, parce que l'électeur n'a pas compris que, qu'en votant un tel citoyen, on ne mettait pas en cause les questions d'éthique. Il faut une vraie formation, parce qu'on ne peut pas avoir une démocratie sans l'électeur. Et l'Église, de ce point de vue-là, peut travailler à avoir un bon électeur qui fera les bons choix, pour nous permettre d'avoir des hommes de qualité demain.
Merci Christian Molécar, abbé Donatien Cholet. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
Trésor Boké Pakoli à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Sans mâcher les mots, les évêques ont défié pleinement la population et l'ensemble de la communauté congolaise avec des propos voici. Nos peuples nous en sont témoins. Je dirais même que l'Église catholique a perdu son sens d'être une église au milieu du village, mais plutôt devenue une institution qui ne vise que ses intérêts. La question que je me pose est celle de savoir réellement la position de cette fameuse Senko. Bref, que les évêques s'occupent de leur mission, celle des bons bergers, et laisser la politique aux politiques. D'éviter surtout l'usurpation de postes pour se substituer au groupe de pression et autres. À mon avis, le pays va mieux avec des germes de changement, car personne ne les a mandatés pour faire les propositions comme telles. Tout ce qu'ils font, à mon avis, les attachent qu'eux et leurs intérêts. Pas pour le peuple. Ils ont leur mission bien fixée.
Monsieur Lavé Cholet, vous avez suivi cet auditeur de Lubumbashi?
Oui, bon, je n'ai pas compris grand-chose, mais ma grande satisfaction avant de répondre à cette question, c'est que je suis content que mes deux combattants, que ce soit M. Peter Kazadi ou M. Moleka, ce sont des gens qui ont compris la quintessence du message des évêques. Et ça, ça me soulage. Quant à celui qui a posé la question, bon, je ne vois pas où est la déception. Est-ce qu'il peut nous dire quels sont les intérêts des évêques? Les évêques n'ont quel intérêt que d'encourager le bien et de décourager le mal pour le bien-être du peuple congolais. Qu'est-ce qu'ils entendent par faire la politique? Vous ne verrez jamais un évêque candidat à la députation, encore moins à la présidence ou au Sénat. Quel intérêt? Les évêques ne sont pas payés. Quand ils viennent pour se réunir ici, ils n'ont même pas un per diem comme on le voyait. Donc, ils font le travail des pasteurs. Et malheureusement, les pasteurs, même le Christ lui-même, en venant sur le chemin, il a le tien, il a apporté la lumière, mais on a opté pour les ténèbres. Donc, si, c'est dommage si aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas encore que si les évêques étaient écoutés depuis longtemps, on serait fort avancé. Donc, pour me résumer, les évêques n'ont aucun agenda politique, les évêques n'ont aucun intérêt. Les évêques sont au milieu du village dans la mesure où ils dénoncent ce qui a dénoncé, quelle que soit la personne qui en a l'auteur, et ils encouragent ce qui a encouragé quelqu'un un seul auteur.
Alors la SENCO a parlé des ruptures, question Moleka l'a évoqué aussi tout à l'heure, comment arriver à cette rupture pour abandonner les mauvaises habitudes et prendre de nouvelles habitudes pour le développement du pays?
Bon, je crois que la réponse se trouve dans la conclusion du message des évêques. La crise, si on peut la résumer ainsi, est éthique. Le Congo a besoin des hommes nouveaux et intègres qu'on peut trouver et dans l'FCC et dans CASH, donc parmi ceux qui sont à la Congo. Alors, le grand exercice maintenant, c'est savoir découvrir ces hommes-là qu'on peut trouver de part et d'autre, qu'on ne nous ramène plus à la scène, à la gestion du pays, ceux qui ont fait l'expérience d'une gestion que tout le monde a jugée mauvaise. Donc, qu'on prenne les hommes intègres du FCC, qu'on prenne les hommes intègres du CACH, et je crois que on peut aller de l'avant.
Alors, il y a cet auditeur qui nous écrit depuis Baraka, qui dit ceci: au regard du Parlement majoritairement FCC, la Cour constitutionnelle, visiblement du FCC, le Premier ministre nouvellement nommé issu du FCC, la grande majorité des institutions provinciales du FCC, l'armée nationale apparemment sous commandement de l'autorité morale du FCC, il est à mon avis difficile que le chef de l'État parvienne à changer à l'heure actuelle le système de gouvernance au risque de ne pas obtenir sa destitution de manière constitutionnelle, même ou par voie des forces. Les évêques devraient être patients de leur démarche, car le président de la République est à présent stratégiquement très mal entouré et qu'il lui faudrait assez de temps pour parvenir à sa totale indépendance. Qu'est-ce que vous en pensez, Abbé Cholet?
Bon, je ne dirais pas qu'il est très mal entouré, parce que je crois quand même ceux du FCC sont des gens intelligents, qui comprennent, qui savent lire les choses. Je ne crois pas qu'ils ne vont pas tirer les leçons des élections du 30 décembre 2018. Ce n'est pas impossible qu'ils regardent aussi dans la même direction, je dis, que le chef de l'État. Donc, mais ce n'est pas facile. Que ce ne soit pas facile, je dirais oui, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. La patience, oui, bien sûr, ben on ne veut pas que on passe du noir au blanc brusquement, mais quand l'élan est de nous, alors il faut laisser l'élan continuer. Mais si chaque fois on doit mettre des freins à cet élan, le peuple est quand même impatient pour sortir de la situation dans laquelle il se retrouve.
Alors vous avez fait aussi des recommandations au Parlement. Vous lui demandez de veiller à ce que la majorité au Parlement n'abuse pas de sa supériorité numérique pour faire voter des lois peu favorables au progrès de la démocratie dans notre pays, de contrôler sans complaisance les membres du gouvernement et les mandataires de l'État. Est-ce que vous avez l'impression que cette majorité qu'il y a au Parlement aujourd'hui risque de ne pas être différente de celle qu'on a eue il y a une année, quelques années?
Oui, le risque est là, dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui sont là, sont des gens qui ont déjà été ou qui ont gouverné. Mais pour mieux comprendre cette recommandation des évêques, il faut considérer le fait que une certaine manière de faire la politique dans ces pays ne sert pas facilement la nation. C'est-à-dire, ceux qui sont au pouvoir ont tendance à minimiser l'opposition, à la minorité, par l'entente de la minorité, à être arrogant parce qu'ils ont la majorité. Et tout comme de l'autre côté, l'opposition a tendance à rejeter tout ce qui vient de la majorité, comme si de la majorité, il n'y a que de mauvaises choses, il n'y a que du diable. Il y a ce manque de considération-là de la minorité, de la part de la majorité, qui peut aussi considérer que la minorité peut amener aussi quelque chose pour faire avancer le pays. Alors voilà pourquoi les évêques attirent l'attention ou invitent les parlementaires de la majorité de ne pas abuser de leur supériorité. Nous sommes la République démocratique du Congo, donc la démocratie. La vocation de notre pays, c'est d'être identifié comme démocratie. Et c'est un chemin qui ne peut être fait que si la majorité qui est là vote les lois qui consolident cette majorité et non des intérêts partisans.
Merci, Abbé Donatien Cholet. Peter Kazadi, Maître Peter Kazadi, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Lodibola Kofo depuis Kinshasa. À mon avis, les évêques n'ont fait que relayer la volonté de la population. Celle-ci attend de nouveaux animateurs des signaux forts, marquant la rupture avec le passé, en vue d'instaurer un État dont l'occupation première doit être la recherche de l'intérêt général. Cependant, à la lire dont marchent les choses, je puis dire que le changement tant attendu n'est pas pour demain. L'exemple des derniers arrêts de la Cour constitutionnelle sur l'invalidation des députés de l'opposition illustre bien cette affirmation.
Maître Peter Kazadi, selon cet auditeur, le changement tant attendu n'est pas pour demain. Il faut être patient. Hein?
Oui, il a dit ce que je venais de dire tout à l'heure, la préoccupation de l'Église, nous la comprenons. En fait, il s'agit d'une exhortation à mieux faire. C'est ça, l'essentiel de ce message. Mais au-delà de tout, j'ai entendu des inquiétudes par rapport à une majorité qui empêcherait à ce qu'on vote des lois justes. Là aussi, c'est une interpellation. Mais au-delà de tout, j'ai toujours dit, moi, que la population congolaise qui aurait donné mandat à tous ses élus, ou qui a donné mandat à tous ses élus, est plus nombreuse que ses élus. C'est quelques 500, 300, 700 élus. Ils ne sont pas aussi majoritaires que le peuple. Et ici, le peuple ne doit pas se décourager. Il ne doit pas, le peuple ne doit pas abdiquer. Il doit resserrer ses rangs pour exercer des pressions suffisantes sur ses dirigeants afin qu'ils travaillent dans le sens du mieux, du bien commun. Alors, si les gens disent que puisqu'il y a une majorité qui écrase et ça va nous écraser tous, je crois que c'est une erreur, c'est un sentiment d'impuissance. Il faut exercer, si réellement tous ces gens ont été élus par nous, peuple, ils doivent nous écouter, ils doivent travailler pour l'intérêt général. Et l'unique manière, si nous constatons qu'ils ne vont pas dans le sens des aspirations populaires, l'unique manière qui nous reste, c'est d'exercer des pressions.
Quel genre de pression, par exemple, Maître Pudère Kazadi?
Mais la Constitution prévoit les mécanismes de manifester lorsqu'on n'est pas d'accord avec une politique gouvernementale. C'est question de mettre la Constitution en mouvement, faire des pressions. Je pense que ce sont des humains, ce sont nos frères et sœurs qui ont été élus. Si nous nous souffrons, et aussi en souffrent quand bien même qu'ils font semblant, mais je pense bien que face à une pression importante, ils ne feront pas de n'importe quoi. C'est très important. Voilà pourquoi j'en appelle à toutes les couches sociales, particulièrement à l'Église, qui comprend le plus grand nombre de fidèles dans ces pays, l'Église catholique, d'accompagner la bonne volonté et l'esprit du changement qu'incarne le président Félix Tshisekedi.
Mais cet auditeur de Kinshasa revient sur les derniers arrêts de la Cour constitutionnelle. Il estime qu'avec ça, on ne peut pas parler de changement.
Mais vous savez, je suis avocat, j'ai les devoirs de réserve par rapport aux décisions judiciaires, mais là, ma conscience a été ébranlée lorsque j'ai vu, je donne un exemple et un témoignage. Moi-même, j'étais candidat aux élections à Moamba où j'ai été élu. Au niveau des élections provinciales, je témoigne en faveur de l'honorable Kibuka du MLC. Ce monsieur a récolté plusieurs voix. À Moamba, je dois le dire, après Kabounde, c'était lui. Et je ne parviens pas à m'expliquer que quelqu'un que je n'ai même pas vu afficher une photo de campagne, qu'il puisse aujourd'hui que Kibuka soit comment on dit,
invalidé
au profit d'un illustre inconnu. Et c'est là que moi j'ai dit qu'il y a eu injustice dans les arrêts de la Cour. La justice élève une nation, dit la Bible. Nos magistrats doivent comprendre qu'ils sont des ministres de Dieu tout autant comme M. l'abbé qui est sur les plateaux. La Bible cite: parmi les gens qui doivent concourir au ministère, il y a les magistrats pour aider la société à avancer. Mais nos magistrats, nous, franchement, ce qu'ils font, ce n'est pas correct.
Mais
et là, la responsabilité revient effectivement au chef de l'État qui a le pouvoir de nommer et de révoquer des magistrats. Donc, on peut voir dans ces cas qui se sont compromis et leur réserver une sanction.
Merci Maître Pudère Kazadi. Albert, plutôt Christian Moleka, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient d'Isangi.
Je m'appelle Jacques Defonga Malumalo depuis Isangi, province de la Tchopo. Les recommandations des évêques de la République démocratique du Congo sont fondées, mais ces évêques ne doivent pas faire pression au président de la République actuellement pour risquer d'intensifier la haine et le conflit entre les régions passées et l'actuel régime. Bien que nous souhaitons tous les changements, mais celui-ci n'est profitable et avantageux que lorsqu'ils l'ont obtenu dans la paix et non dans la querelle et précipitation. En observant les actions du président depuis son accession au pouvoir, il y a lieu de noter qu'il gouverne et dirige avec beaucoup de loyauté et de sagesse. Ses actions
sage et loyal, promettent l'instauration de l'État et un changement doux et pacifique. Quant au Parlement, je pense, à mon avis, qu'il fonctionne sur base de principes et dispositions républicaines et démocratiques que le pays s'est souscrit. Jusque-là aussi, rien de grave à reprocher.
Christian Moleka, faut pas faire trop de questions sur le président de la République au risque d'intensifier la haine et le conflit entre le régime passé et l'actuel, selon cet auditeur qui nous écrit Nissani.
Monsieur Jacques, j'ai bien suivi votre question. Je pense qu'il faudrait peut-être faire une autre lecture. C'est le moment. Pourquoi les évêques choisissent maintenant pour faire le communiqué? C'est parce que nous sommes presque au terme des négociations également entre les FCC et les CACH, qu'on, d'ici là, peut-être qu'on aurait le gouvernement. C'est le moment qu'il faut faire pression pour que dans les états-majors où ils se réunissent, qu'on propose des hommes justement qui peuvent incarner cette nouvelle éthique-là, des hommes intègres, nouveaux, plutôt que d'attendre que le gouvernement soit formé, que d'autres personnes soient ramenées, pour que après tout ça, on fasse des pressions qui ne serviront à rien. Je crois qu'il faut également saisir, d'un point de vue tactique, le choix que les évêques ont fait de poser ce communiqué au moment où les négociations sont presque à terme. Et donc, je crois qu'il s'agit d'une manière intelligente de dire au président, voilà, vous savez presque au terme de vos négociations, mais regardez le profil des gens que vous proposez également pour qu'on ne voie pas revenir des hommes anciens qui incarneraient cette mauvaise gestion. Je crois que l'intelligence tactique est là, il faudrait saluer ça. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas avoir de la pression? S'il faut de la pression, il faut ce qu'on appelle la vigilance ou la vigilance citoyenne. Il faut que, si nous voulons sauver notre démocratie aujourd'hui, que le peuple mette énormément de la pression sur les dirigeants. Parce que, de même, les politiques ne sauront pas mettre en place ces mesures éthiques qu'on souhaite. De l'éthique, c'est de la contrainte, c'est de la moralité. Et la moralité, ça se fait soit soi-même parce qu'on est intègre, soit parce que les barrières, les garde-fous vous y imposent. Tous les partenaires qui viennent aujourd'hui nous répètent qu'il faut une loi anticorruption, qu'il faut une agence anticorruption. Et l'a dit Paul dernièrement, en la télé, nous sommes revenus sur ça, le pays a besoin d'une loi anticorruption, le pays a besoin d'une agence anticorruption. Et c'est sans de telles pressions qui vont pousser les élus, malgré eux parfois, à prendre des mesures qui s'imposent pour la société. Parce que nous avons une classe politique qui n'a pas toujours ce regard attentionné sur le peuple. Et que si on se soumet uniquement à sa bonne volonté, on n'aura pas les résultats qu'il faut. Il faut de la pression. Et c'est que les effets font, c'est pas mauvais.
Il estime que, bon, selon lui, tous nous souhaitons le changement, mais il ne faudrait pas le faire dans la précipitation.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il met dans précipitation. J'estime qu'il y a des séquences dans la vie politique où il faut maintenir la pression. Nous sommes en face d'une séquence qui est la formation prochaine d'un gouvernement, où des acteurs seront choisis pour la gestion de l'État. Et pour cette séquence, il faut également mettre la pression pour que les états-majors qui vont désigner les animateurs nous choisissent des personnes qui soient intègres, qui soient des hommes nouveaux, qui apportent de nouvelles idées et qui peuvent maintenir l'espoir de changement incarné par le peuple à travers les urnes. Et donc je pense que le choix fait par les évêques de poser ces communiqués à quelques jours peut-être de la formation du gouvernement s'inscrit dans cette logique-là. Et donc la pression, elle est nécessaire. Nous aurons le budget au mois de décembre. La pression populaire sera nécessaire pour que les choix, les orientations budgétaires soient orientées vers les questions prioritaires de la population. Il faut trouver des séquences comme ça en démocratie où il faut savoir mettre la pression sur l'institution, même si le jeu politique demeure institutionnel.
Alors vous parlez des pressions. Est-ce que cette dernière ne risque pas d'être perçue par ceux qui sont aux affaires comme un moyen de déstabilisation?
Madame, la démocratie aujourd'hui, c'est également cette participation citoyenne qui ne se limite pas à voter tous les 5 ans. Vous regardez autour de nous, regardez ailleurs, regardez en France, vous voyez les gilets jaunes. La démocratie aujourd'hui, c'est également ce rappel citoyen aux décideurs pendant le mandat. C'est ce qu'on appelle la vigilance citoyenne. Le citoyen n'est pas qu'électeur, le citoyen est également surveillant. Il doit surveiller les décideurs et les amener à bon port. Ça ne se fait pas simplement à la fin du mandat, Torosé Labango, Bakouya, une élection. Ça s'est fait durant le mandat et la population doit maintenir la pression durant le mandat sur les institutions, sur les élus, pour qu'ils amènent à bon port notre démocratie, afin qu'on ne s'enferme pas dans les conciliabules politiciennes qui ne tournent pas toujours pour les intérêts du peuple.
Alors cette pression, vous revenez trop sur le mot pression, sur ce qui nous dirige. Par contre, Jacques Befunga Dissangi, lui, pense que les actions du chef de l'État actuellement sont à encourager parce que on espère, en fait, il y a, comment dire, on est presque sur la voie de l'état des droits, quoi.
Le président a une volonté bien claire, ça se voit à travers ce qu'il a fait jusque-là. Mais il a besoin également de soutien parce que le jeu politique se joue au niveau institutionnel et constitutionnel. Je donne un cas précis. Pourquoi y a-t-il eu cette chambre spéciale au niveau de la Cour constitutionnelle? C'est parce qu'il y a eu une sorte de clameur nationale. Tout le monde s'est ému sur cette question d'invalidation et c'est la pousser les élus, les juges plutôt, à mettre en place cette chambre spéciale dont on attend encore jusqu'à maintenant les résultats. Pourquoi il y a eu ce recul au Parlement lorsqu'on a amené les débats sur le zonage présidentiel? C'est parce qu'il y a eu ce rapport des forces de la rue qui a quelque peu refroidi les ardeurs de certains élus. Il faut maintenir dans l'esprit démocratique, bien évidemment, cette pression sur les institutions, parce que c'est en maintenant ces pressions-là qu'on donnera certainement au chef de l'État les marges de manœuvre nécessaires à mettre en place ces réformes. Sinon, le jeu politicien se mènera comme habituellement, il va bloquer l'espace public du débat et on aura probablement une sorte de démocratie naine qui ne donnera pas les fruits attendus par les citoyens.
Christian Moleka, ça sera aussi votre conclusion parce que nous tendons vers la fin de l'émission. Quels pourraient être les mérites de ces recommandations de la SENCO? Vous pensez que ça pourrait faire changer quelque chose?
Je suis assez dubitatif parce que je ne vois pas ces recommandations changer quoi que ce soit. J'ai parlé d'impuissance au début, connaissant nos acteurs politiques, je ne vois pas s'il n'y a pas une pression plus forte que des recommandations, ces gens-là changer.
Donc vous êtes
assez sceptique.
Ouais. Monsieur l'abbé Donatien Cholet, vous avez suivi Christian Moleka, qui est assez sceptique par rapport à ces recommandations que vous faites au chef de l'État, au Parlement, au futur gouvernement, et même à nous, le peuple, il a l'impression, il reste quand même assez sceptique. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben moi je vais être optimiste du fait que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai salué l'approche de maître Peter Kazadi qui est de la coalition au pouvoir, et qu'il comprenne, et d'ailleurs aussi le chef de l'État en échangeant avec lui a affiché la même attitude, il comprend ce que le peuple attend. Et ça, c'est aussi une première raison d'optimisme. La deuxième raison, c'est que notre peuple, au-delà de tout ce que les gens peuvent spéculer, n'est plus comme avant. Vous savez, nous, on est dans l'éducation civique et je peux dire que le résultat était positif par rapport à ce qu'on a récolté le 30 décembre. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, on a dépassé le clivage est-ouest.
Merci.
S'il n'avait pas de bruit, allô?
Allez-y, concluez, monsieur l'abbé Cholet.
S'il n'avait pas de manifestations après la publication des résultats, c'est parce que quelque part, au-delà des revendications de ce qui a été dit, le peuple croit que le président Félix est capable d'amener ce changement-là.
Merci, abbé Cholet.
Il ne dormira pas.
Merci, monsieur l'abbé Cholet. Maître Peter Kazadi, votre conclusion?
Oui, je pense que les recommandations de l'Église, nous les épousons. Le chef de l'État lui-même a déjà affiché cette volonté-là d'aller vers les changements. Ce que moi, je peux recommander aussi à l'Église, c'est d'accompagner le chef de l'État dans sa volonté du changement.
Merci, Maître Peter Kazadi. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.